Bah Dominique nous a bien introduit dans ce moment, ce temps de l'Avent, qu'on a déjà commencé dimanche dernier. On ne débute pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. C'est pour ça qu'on a allumé deux bougies sur les quatre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, avant, le mot avant, pour le temps de l'Avent? Ça s'écrit A-V-E-N-T. Ça se dit Avent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne le sait? Je crois que je l'ai entendu. La venue. Aventus. Ça veut dire la venue. Parce que pendant cette période, on se souvient d'une attente, l'attente de la venue du Christ, de Jésus, le Sauveur, Dieu devenu homme. Alors, Jésus, il est déjà venu sur Terre il y a 2000 ans environ. C'est donc pas nous qui avons attendu sa venue. C'est les personnes qui ont vécu avant qu'il vienne, qui l'ont attendu. C'est de leur attente à eux qu'on se souvient pendant cette période de l'Avent. Mais c'est une attente quand même qui nous concerne encore nous aujourd'hui, parce qu'avant de quitter cette terre, le Christ a promis qu'il reviendrait. Et cette deuxième venue, nous l'attendons toujours. Voilà le temps de l'Avent, nous souvenons de l'attente de la venue du Christ, de sa première venue sur terre, et nous, actuellement, nous sommes toujours dans une attente. Alors, pour nous souvenir de cette attente, on a l'habitude, durant la période de l'Avent, d'étudier ensemble des textes bibliques qui, justement, annonçaient la venue de Jésus. Et dimanche dernier, pour le premier dimanche de l'Avent, c'était Gérard Bezin qui a entamé ce cheminement en nous présentant des prophéties qui annoncent ce que ce Sauveur sera, ce qu'il devait être. Il est déjà venu, mais qui il devait être? Aujourd'hui, pour continuer notre attente, on va étudier ensemble des textes qui annonçaient ce que ce Sauveur devait faire. Pourquoi est-ce qu'il devait venir? Qu'est-ce qu'il devait accomplir, réaliser? Et nous allons le faire pas à pas, tranquillement, au travers de trois textes bibliques ce matin. Ne vous inquiétez pas, ils sont courts. Et tout d'abord, pour faire le lien avec la prédication aussi de dimanche dernier, on va rapidement revoir un texte que Gérard nous avait déjà présenté dimanche dernier. Ce texte se trouve dans le livre d'Ésaïe. Les trois textes que nous allons voir ce matin se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Le premier au chapitre 11, les versets 1 à 5. Un rameau poussera du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit, en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton, le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Voilà ce premier texte. Et dans ce texte, on nous parle de ce Sauveur qui doit venir et il est présenté comme un rameau, c'est-à-dire une branche. En fait, ici, le peuple de Dieu est représenté par un arbre, c'est une image. Ce peuple de Dieu, c'est celui avec qui Dieu avait conclu une alliance dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le peuple d'Israël, à l'époque de la rédaction de ce texte. Le peuple de Dieu est donc comme un arbre, imaginez-le comme un arbre, et de cet arbre doit pousser ou germer une branche qui, d'après notre texte, portera du fruit. Et cette branche qui portera du fruit, ce sera le Sauveur promis, le Christ. Et déjà dans cette image, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le texte nous dit que le Sauveur poussera sur le tronc du peuple de Dieu, qu'il naîtra de ses racines et qu'il portera du fruit. Mais lorsqu'un arbre est en bonne santé, en temps normal, comment est-ce qu'il grandit? Qu'est-ce qui se passe pour cet arbre au printemps? Il fait des bourgeons. De ces bourgeons naissent des branches et des feuilles, et puis après, si c'est un arbre fruitier en bonne santé, alors toutes ces branches donnent du fruit. Bernard, notre paysagiste, si jamais je dis des bêtises, tu m'arrêtes, mais je pense que jusque-là, ça va. Ce que notre texte nous dit du Sauveur, qu'il germe sur un arbre, qu'il pousse et qu'il porte du fruit, c'est ce qui se passe normalement pour toutes les branches d'un arbre en bonne santé. Pour un arbre en bonne santé, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose de normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette image. Il n'y a pas de quoi en faire une prophétie, finalement. Il n'y a pas de miracle dans cette histoire. Un arbre duquel pousse une branche qui donne des fruits. C'est normal pour un arbre en bonne santé. Moi, si je me mettais à regarder un arbre en hiver, sans ses feuilles, et que je commence à vouloir prophétiser qu'au printemps, cet arbre qui est en bonne santé donnera des feuilles, et puis si c'est un arbre fruitier, qu'il donnera du fruit. Voilà, je vous ai fait une prophétie. Vous allez bien vous marrer, vous allez me dire, c'est pas top ta prophétie, c'est juste normal. C'est pas une prophétie. C'est normal pour un arbre en bonne santé. Oui, pour un arbre en bonne santé, qu'un bourgeon apparaisse, puis germe, pousse et donne du fruit, c'est normal. Mais ici, ce qui fait que ce texte est une prophétie formidable, ce qui en fait un miracle, c'est que cet arbre sur lequel doit pousser ce germe est un arbre malade. C'est un arbre mort. Un arbre qui ne pousse plus et qui ne porte plus de fruits. Lorsque le prophète Ésaïe écrit ce texte, l'arbre représente le peuple d'Israël. Un peuple avec lequel Dieu a conclu une alliance. Un peuple qui a promis à Dieu de lui rester fidèle pour toujours. Mais avec le temps, la Bible nous raconte comment le peuple d'Israël s'est finalement détourné de Dieu petit à petit. Il a abandonné l'alliance, il a rompu la promesse. Tant que le peuple respectait cette alliance, Dieu promettait de faire de lui un arbre plein de vie, qui pousse et donne du fruit. Mais lorsque le peuple a rejeté Dieu, il a rejeté celui qui lui donnait la vie. Et petit à petit, il est devenu un arbre mort. Le peuple n'a pas été fidèle à sa promesse. En revanche, Dieu, lui, reste fidèle malgré tout. Et il promet de ne pas totalement abandonner ce peuple. Il ne pourra pas sauver l'arbre tout entier. Mais de cet arbre, il fera repartir une branche. Une branche, belle et saine, et qui portera du fruit. De ce peuple qui le rejette, Dieu fera sortir un sauveur. Et que viendra faire ce sauveur tant attendu? C'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Eh bien, c'est la suite de notre texte, les versets 3 à 5 qui nous le disent. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton, le souffle de sa bouche abattra le méchant, il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Le Sauveur viendra, nous dit ce texte, établir la justice de Dieu. Il viendra séparer ceux, au sein de cet arbre, de ce peuple, qui sont restés fidèles à Dieu, de ceux qui l'ont rejeté. Il poussera depuis un arbre malade, non pas pour sauver l'arbre tout entier, mais pour préserver les parties encore saines, c'est-à-dire ceux du peuple qui restaient fidèles à Dieu. Il est temps alors de passer au deuxième des trois textes que nous allons lire ce matin, et qui développe un peu plus ce que nous venons de voir, qui va nous donner plus de précision. Ce deuxième texte, toujours dans le livre d'Ésaïe, se trouve au chapitre 4, les versets 2 à 6. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera magnifique et glorieux, et le fruit du pays sera un sujet de grande fierté pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion seront appelés saints. Tous ceux qui à Jérusalem seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur tous ceux qui s'y rassembleront, une nuée le jour et la nuit, la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dé et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Un texte rempli d'images, pas forcément très facile à comprendre. Ce texte, en fait, nous présente à nouveau ce germe qui doit venir, qui portera du fruit. On est bien dans la même thématique que le texte d'avant, on parle bien de la même chose, mais cette fois, il nous en dit un peu plus sur ceux qu'il vient sauver. Il nous dit que le germe viendra pour les survivants d'Israël, ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion. Le Sauveur doit venir au sein de ce peuple, mais apparemment uniquement pour une partie de ce peuple, du peuple d'Israël. Ce reste fidèle, cette partie du peuple qui n'a pas rejeté Dieu, notre texte nous apprend que leur nom est inscrit afin d'avoir la vie. C'est-à-dire que Dieu les a consignés, comme dans un livre, reconnus comme étant fidèles et qu'il leur promet de ne pas les abandonner à la mort et de leur apporter la vie en abondance. Dans le premier texte que nous avons lu, il était dit que le Sauveur devait apporter la justice de Dieu. Eh bien ici, notre texte nous apprend que c'est ce reste fidèle qui sera déclaré saint, c'est-à-dire pur, juste, fidèle, consacré à l'Éternel. Mais si quelques-uns seront déclarés justes, alors ça veut dire que les autres ne le seront pas. Au contraire, ils seront déclarés coupables d'avoir rejeté Dieu. Et effectivement, notre texte nous dit que l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem. C'est pas très réjouissant. C'est loin du beau message de Noël qu'on annonce régulièrement. Et pourtant, c'est dans ce texte. Le Sauveur doit venir apporter la justice de Dieu, une justice qui bénit, qui protège, qui sauve et fait vivre celui qui s'en remet au Seigneur. Mais une justice parfaitement juste, qui ne commet pas d'erreur judiciaire et donc qui ne déclare pas un coupable innocent. C'est ce que nous disait notre premier texte d'Ésaïe 11. Le Sauveur ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire, mais il jugera avec justice et il arbitrera selon le droit. En fait, le Sauveur doit venir apporter la justice de Dieu, mais une justice parfaitement juste, qui ne commet pas d'erreur judiciaire et donc qui ne déclare pas le coupable innocent. Le coupable sera déclaré coupable et ceux qui sont fidèles à Dieu seront déclarés justes d'après la promesse de ce texte. Tout ça est expliqué dans cette prophétie où Dieu promet à ceux qui lui sont fidèles de les garder, de les protéger, de les préserver, de les maintenir dans sa présence et dans sa vie. Il les guidera, nous dit notre texte, comme une nuée durant le jour et comme une flamme durant la nuit. Alors ça aussi, c'est encore une image, cette image de la nuée le jour et de la flamme la nuit. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? L'Exode, effectivement. Ça fait référence à l'épisode de l'Exode, lorsque par Moïse, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte et pour les guider dans le désert. Ça fait rien pour les guider dans le désert. Alors pour les guider, il leur donnait une nuée, un nuage le jour qui guidait leur chemin et une flamme pendant la nuit. Et bien de la même manière, Dieu continuera à guider le reste fidèle de son peuple, ceux qui lui sont fidèles, tout comme il a guidé Israël dans le désert. Enfin, notre texte rajoute que pour ce reste fidèle, Dieu sera non seulement un guide par cette nuée et cette flamme, mais également un protecteur. On peut lire au verset 6 que Dieu sera comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Dimanche dernier, Gérard nous a guidés dans la découverte de ce Sauveur, de sa personne, de qui il est. Aujourd'hui, nous découvrons le but de sa venue, apporter au monde la justice de Dieu. Sauver, délivrer, bénir, protéger les justes, ce fameux reste qui est toujours fidèle à Dieu. Ces textes nous le promettent, Et nous savons que c'est ce qui s'est passé, effectivement. Le Sauveur, Jésus-Christ, est venu sur terre en naissant au sein du peuple d'Israël, au milieu de ce peuple. Ce peuple qui avait fait une alliance avec Dieu, mais ce peuple qui ensuite rejetait Dieu et qui était comme un arbre malade. Eh bien, de ce peuple, de cet arbre malade, est sortie une branche, un rameau, un sauveur juste et fidèle qui obéissait à Dieu et qui venait apporter la justice de Dieu à tous les hommes. Ce sauveur, Jésus-Christ, est bien né dans le peuple d'Israël, comme les prophéties que nous avons lues l'annonçaient. C'est ce que nous fêtons d'ailleurs le jour de Noël, la naissance de ce sauveur à Bethléem, petite ville de Juda, du pays d'Israël. Et c'est de cette attente dont nous parlons durant la période de l'Avent. Le Sauveur est venu rencontrer le peuple avec qui Dieu avait conclu une alliance. Et tout comme nous l'avons vu dans les prophéties d'Ésaïe, une partie du peuple a accueilli le Christ avec joie, une partie du peuple a reconnu en lui le Sauveur promis, une partie du peuple est restée fidèle à Dieu, c'est ce qui nous est raconté dans les évangiles, une partie de ce peuple a suivi le Sauveur. Mais une partie seulement, l'autre partie de ce peuple a rejeté Dieu, a rejeté le Sauveur que Dieu leur envoyait. Ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Ces prophéties se sont bien accomplies en Israël, au sein de ce peuple. Mais tout ce qu'on a dit finalement pour le moment, ça concerne le peuple d'Israël. Ces prophéties jusque-là, sauf erreur de ma part, elles ne parlent pas de nous. Mais pourtant, moi aussi, j'aimerais pouvoir suivre ce Sauveur. Je veux dire, moi aussi, je veux être fidèle à Dieu. Moi aussi, je veux le reconnaître, l'accepter dans ma vie. Alors, est-ce que Dieu avait déjà, à l'époque, prévu quelque chose pour moi, pour nous, qui ne faisons pas partie de ce peuple? Eh bien, c'est le moment de lire notre dernier texte de ce matin, qui est encore une prophétie du livre d'Ésaïe. Cette fois au chapitre 56, tout d'abord les versets 1 et 2. Voici ce que dit l'Éternel, faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver, je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi, heureux sera celui qui s'appliquera, qui s'y appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et s'efforcera de ne faire aucun mal. Ben c'est bien ça dont on parlait juste avant, le Sauveur doit venir et faire justice. On est bien dans la bonne thématique toujours. Mais jusque-là, c'était annoncé pour une partie du peuple d'Israël, le reste fidèle, qui était toujours fidèle à Dieu, qui suivrait Jésus. Et moi, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Eh bien, poursuivons notre lecture un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 6 à 8. « Et tous ceux qui sont étrangers » et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai au temple où l'on me prie, et j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. » Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël. À ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. Voilà ce que Dieu avait prévu pour nous tous. Voilà ce que devait venir accomplir ce Sauveur. Il devait effectivement rassembler le reste fidèle d'Israël, c'est-à-dire les premiers croyants qui ont suivi le Christ, qui l'ont reconnu, qui l'ont accepté et qui l'ont suivi durant sa vie, mais à ce reste, Dieu promet d'ajouter d'autres qu'il rassemblera également. Notre texte nous dit de ces autres qu'ils sont étrangers au peuple de Dieu et que le temple du Seigneur sera appelé la maison de prière pour tous les peuples. Ces autres, ces étrangers, tous ces peuples qui ne font pas partie du reste fidèle d'Israël, mais que Dieu promet d'ajouter à son peuple, à son alliance, c'est nous. Ce sont l'ensemble des croyants de tous les pays du monde. Ce sont tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle du Christ et qui ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament, avant même la venue de ce Sauveur, Dieu avait prévu de se constituer un nouveau peuple, non seulement à partir d'un reste fidèle du peuple d'Israël, mais également en adoptant, en ajoutant tous les peuples, tous les croyants de tous les peuples de la terre. Les prophéties d'Ésaïe ne s'adressent pas qu'à un Israël étatique. Elles ne s'adressent même pas du tout à un Israël étatique, à un Israël politique, à un Israël en tant que nation. Elles s'adressent à une partie de ce peuple qui a reconnu en Jésus-Christ la venue du Sauveur que Dieu avait promis. Et ces promesses s'adressent également à nous. Nous qui ne faisions pas partie du peuple de Dieu, mais nous qui avons cru en lui, qui l'avons accepté comme sauveur, qui lui avons donné notre vie, Dieu nous a alors greffés à ce rameau saint qui porte du fruit. Nous que Dieu a adoptés comme ses enfants, au sein de son peuple, au sein de son alliance, au sein de sa famille. Les prophéties du livre d'Ésaïe, qui parlent du Sauveur, qui parlent de sa venue, de sa mission, ses prophéties, annonçaient déjà l'existence de l'Église. L'Église, ensemble des croyants, de tous les temps et de toute la terre, c'est pas un accident. C'était pas un plan B que Dieu aurait mis en place. Ça vous paraît peut-être bizarre que je vous dise ça, que je vous dise que c'est pas un plan B. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens, c'est une théologie assez répandue, pensent que l'Église ne faisait pas partie du plan de Dieu à la base. Ces chrétiens croient que Dieu avait prévu de sauver le peuple d'Israël dans son ensemble, en tant que pays, en tant que nation. Mais finalement, en fait, ça se serait pas passé comme prévu. Il y aurait eu un couac parce que, par erreur, manque de bol, une grande partie du peuple d'Israël aurait rejeté le Sauveur que Dieu avait promis. Il l'aurait pas accepté. Du coup, Dieu serait passé à un plan B, qui est l'Église, sans que ça soit prévu au départ. Dieu aurait dit, finalement, ça marche pas avec le peuple à qui j'avais fait les promesses. Je vais mettre un plan B, je vais en prendre un autre. Ces chrétiens pensent que l'Église est un accident. Mais les prophéties que nous avons lues ce matin, ces prophéties nous montrent que nous ne sommes pas un accident. Dieu n'a jamais prévu de sauver un pays, une nation entière. Il a prévu de sauver ceux parmi ce peuple qui resteraient fidèles, ceux qui accepteraient le Sauveur, Jésus-Christ. Ça a démarré effectivement au sein du peuple d'Israël, mais uniquement avec une partie de ce peuple, ce reste fidèle dont Ésaïe parle dans ses prophéties. Et sur ce reste, Dieu a alors greffé tous les croyants de toutes les nations de la terre. C'est pas un accident, c'est le plan de Dieu que l'Éternel nous annonce déjà dans les prophéties d'avant la venue du Christ. L'Église n'est pas une parenthèse, elle est l'aboutissement des promesses merveilleuses que Dieu nous révèle dans sa parole. L'Église est l'aboutissement de toutes les promesses que Dieu a pu faire à Abraham, à Moïse, à David, ou dans les textes que nous avons lus ce matin au prophète Ésaïe. Les plans de Dieu n'ont pas échoué. Au contraire, tout se déroule toujours selon son plan. Nous en sommes la preuve, nous encore aujourd'hui, ce matin, qui ne faisions pas partie de ce peuple choisi par Dieu, mais qui avons été greffés par son amour, à son alliance, à son peuple, à sa famille. Nous sommes la preuve de la grande fidélité de notre Dieu. Et à l'exemple de ces promesses réalisées en Jésus-Christ, nous pouvons alors dans notre vie de tous les jours marcher avec confiance, marcher avec assurance, l'assurance de la fidélité de Dieu envers nous, avec l'assurance qu'il réalise toujours tout ce qu'il nous promet, avec l'assurance que rien ne lui échappe, et avec la certitude que les promesses qu'il nous a faites, et qui sont encore à venir, dans lesquelles nous sommes encore en attente, comme celle du retour de son Fils et d'une vie éternelle auprès de lui, ces promesses-là, comme toutes les autres, se réaliseront à coup sûr. Béni soit l'Éternel pour sa grande fidélité et son amour pour nous. Amen.